Salut à tous, bienvenue dans Niptech, Niptech numéro 107. Un Niptech où il s'est passé beaucoup de choses. Et Mike est là avec nous pour en parler. Salut Mike.
Salut Ben, un plaisir d'être là. C'est un lundi soir. Il commence à faire un peu triste ici, c'est-à-dire qu'à 20h, il est quoi, 21h et 5 minutes passées, et il commence à faire un peu noir. On sent l'hiver qui commence à arriver. Je pense que l'hiver chez toi, là-bas à Dublin, c'est déjà depuis au moins 2 mois.
Oui, bon, c'est au moins depuis 6 mois, on va dire. Donc, pas de problème. On a eu quelques jours de beau. Il a fait presque 20 degrés, là, il y a 2 semaines. Donc, c'était la fête. Donc, effectivement, comme d'habitude, il pleut, il fait froid. Pas de problème. Fidèle au poste, la météo ici à Dublin. On hésitait avant l'émission. On parlait de la nouvelle de la semaine. Je crois qu'il n'y a pas tellement à passer à côté, c'est le décès de Steve Jobs, quelque chose qui évidemment marque en tout cas l'histoire de la tech. Après, c'est clair qu'il y a débat sur sa place dans l'histoire. Ça, c'est quelque chose peut-être qu'il faudra un petit peu plus de temps pour digérer. Je pense que c'est pas le moment vraiment maintenant. Moi, je trouvais que j'avais plus grand chose à dire. J'ai lu énormément ces derniers jours sur lui, passant de sa vie, son œuvre, ses amis, sa famille. Toi, Mike, où est-ce que tu en es de la digestion de la nouvelle?
Bon, je l'ai digéré. Moi, ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est vrai que ce qui paraît drôle, c'est que même pas 5 jours après la nouvelle, on en a tellement parlé dans le monde tech que ça devient old news, si on veut bien. Après, on peut toujours la digérer ou toujours la regarder, mais je me fais toujours la réflexion à quel point les choses évoluent tellement vite dans un monde où il y a ultra beaucoup d'informations en temps réel, que le fait que Steve Jobs soit décédé il y a quoi, même pas 5 jours, devient une old news dans le monde tech. Moi, je voulais en parler, hein, d'ailleurs, on débattait juste avant le début de l'émission. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a marqué le monde de la technologie, non seulement le monde de la technologie, mais quand je parlais à des personnes non-tech, tout le monde avait son avis, tout le monde avait son petit... ça a touché beaucoup de gens, j'ai trouvé. Et ça, respect, moi, je suis pas l'Apple fanboy que tu voudrais que je sois, Ben, mais j'ai eu une certaine tristesse de voir Steve Jobs disparaître, même si on savait tous qu'il était malade et qu'il allait bientôt trépasser, comme on dit en français. Moi, j'ai une question pour toi.
Oui.
Est-ce que tu crois que ça sera Bill Gates ou Steve Jobs qu'on retiendra dans 100 ans?
Écoute, alors à mon avis, ça sera probablement ni l'un ni l'autre. On est toujours surpris de savoir de qui on se souvient. Je trouvais extrêmement intéressant, alors parmi tous les articles dont on a parlé, de parler de celui qui inspirait ou qui a inspiré Steve Jobs, et c'est l'inventeur du Polaroid, dont je me souviens même plus le nom, pourtant j'ai lu l'article il y a quelque temps. Polaroid, à son heure de gloire, c'était exactement un petit peu ce qu'il appelle aujourd'hui, c'est-à-dire le mélange du design et de la technologie avec des appareils qui ont marqué leur époque et qui marquent encore leur époque. Ça reste quelque chose dont on parle. Et à l'époque, cet inventeur de Polaroid était tout autant une icône que Steve Jobs.
Il s'appelait.
Oui, comme on se souvient tous, pas du tout, quoi. Donc, c'est difficile à dire. Peut-être, tu sais, que ça sera peut-être Linus Torvald dont on se souviendra. Je sais pas, moi. C'est assez difficile à dire. C'est probablement quelqu'un qu'on connaît. C'est ce que je disais sur le fait qu'on n'arrive pas, on n'a pas assez de recul, hein. Comme à l'époque des grands compositeurs, tu sais, on se demande toujours, mais comment ça se fait que les gens se sont foutus quand Mozart est mort, grand génie, etc. Et puis, tout le monde s'en est foutu parce qu'on se rendait pas compte de sa contribution sur le moment. Alors que maintenant, c'est un incontournable. Donc, est-ce que ça sera la même chose? C'est tout à fait possible. Les icônes passent et puis... En tout cas, pour nous, c'est clair qu'il n'y a pas du tout il n'y a pas à nier l'impact. Ce qui avait d'intéressant, c'est que le prix Nobel, je crois, de chimie, qui a été juste annoncé le jour avant le décès de Steve Jobs, a lancé un tweet le lendemain en disant « I'm already old news ». Donc je suis déjà une nouvelle ancienne, comme tu disais, et il semblerait que du jour au lendemain...
Oui, excuse-moi.
Ouais, voilà. Mike, là, tu. Aujourd'hui, Mike n'a pas le micro. Déjà, ça, c'est une faute. Alors, on lui tire l'oreille, mais là, en plus, tu fautes. Aïe. Oui, donc, il disait ça. Ça passe très, très vite, comme tu disais. Peut-être, à moins que tu aies quelque chose à rajouter encore sur Steve Jobs, on peut passer à l'autre nouvelle marque de la semaine, celle qu'on voulait, dont on voulait parler. De toute façon, c'est l'iPhone 4S, qui, comme tu peux l'imaginer, m'intéresse énormément.
Oui. Alors, juste avant, est-ce que tu peux juste mettre les URL dans la chatroom, hein, parce que je suis pas en tant que deep tech podcast, donc Roris nous le demande. Donc, si tu peux le faire, ce serait cool. Et moi, avant de passer au 4S, je voudrais juste dire un truc sur Steve Jobs. Moi, je pense que l'histoire retiendra Bill Gates. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que je regarde aussi tous les grands, pas seulement inventeurs, mais les grands industriels, de ce siècle, et je vois que ceux dont le, en tout cas au niveau anglophone, hein, américain, dont on se souvient, c'est ceux qui ont été aussi des personnes qui ont été qui ont aidé la société. Je pense à Carnegie qui était un ponte de l'acier, je pense à Rockefeller qui était un ponte du pétrole, mais qui s'est développé après en faisant des énormes un développement qui a aidé en faisant des fondations énormes aux États-Unis. Et je pense que Bill Gates, malgré qu'on, ça a été une personne qui est un concurrent très dur, avec une politique très très violente, finalement, avec sa manière de faire et puis sa manière d'être actuellement, ben, il va rentrer dans l'histoire. Et je pense que dans 100 ans, même si Steve Jobs est une personne incroyable, qui a développé énormément de choses, l'histoire retiendra plus Bill Gates de par son humanité, de par son aide à la planète qu'il fait actuellement, je pense.
Écoute, ouais, alors c'est, je suis assez d'accord. En tout cas, il n'y a pas à nier que l'impact de Bill Gates sur la société, ce qui est extrêmement intéressant par rapport à lui, c'est qu'elle est à plusieurs niveaux. Ça, c'est vrai. Et j'aime bien. Alors, pendant que tu racontais ça, et je dois dire que je suis d'accord avec toi, je trouvais intéressant. Moi, j'essayais de mettre en place chill.com. Pourquoi? Parce que j'en ai reçu une réponse de Chill. Alors, on va essayer de le faire en direct. Comme on sait toujours, tous, quand on fait des trucs en direct, ça marche pas, mais en même temps, c'est pour ça qu'on aime bien faire du direct. C'est parce qu'il y a un petit peu le frisson. Alors, chill.com, Mike, je laisse expliquer pendant que j'essaye de nous passer là-dessus, d'accord?
Oui. Alors, chill.com, on a dit qu'on voulait le faire. C'est une sorte de nouvelle manière de broadcaster, un peu comme un turntable FM, pour, on en avait déjà parlé dans Niptech, mais pour tout ce qui est vidéo. Donc, en fait, on crée un petit avatar dans chill.com, qui est d'ailleurs un bon autre domaine, hein, chill.com. On crée une channel qui est Niptech et tout le monde peut se connecter. Donc, il faut se créer un petit avatar. Le mauvais côté de la chose, c'est qu'il faut se créer connecter avec son Facebook Connect. Et après, il faut se faire un username, un login, et directement, normalement, on peut interagir avec des gens et on se voit. Donc, non seulement on voit la vidéo, mais après, on voit des petits avatars avec lesquels on peut discuter. Il paraît que, bon, en tout cas, This Week in Startup l'utilise, et ça permet beaucoup plus d'interaction avec les membres de la chatroom parce que on discute ensemble. Donc, on essayait de le mettre en place, on n'arrivait pas à embed, comme on dit en anglais, la vidéo de Ustream à l'intérieur du chill.com. Il faut se dire, ils sont extrêmement réactifs et Andrew Scottso, qui est un des membres de chill.com, nous répond avec une grande vitesse. On a envoyé il y a même pas 2 minutes, 3 minutes plus tard, il nous répond. Donc merci à lui. Ben, tu en es où?
Alors, pendant ce temps, les nouvelles du front, Mike, je suis en train d'être sur chill.com et je peux dire que ça marche bien. Donc, j'ai créé une channel. Si tu vas sur notre Ustream, j'ai mis le lien. Donc, le lien, c'est chill.com/room/niptech-live. Et ça donne. Donc, j'entends ici Tomfu77 qui nous dit qu'il y a un écho avec Ustream. C'est-à-dire, là, on parle vraiment dans l'expérimentation. Hein, donc, on est dans la, qu'est-ce qui se passe quand les gens essayent chill.com pour la première fois? Pour donner une petite, je sais pas si t'as donné cette nouvelle-là, c'est un peu turntable pour la vidéo, hein. C'est
oui.
Ça le.
Oui, voilà, j'ai un peu fait ça. Je pense que ça vient de toi. Peut-être que tu devrais baisser le son de la channel chill.com pour que tout le monde puisse y aller. Normalement, ça devrait fonctionner. Est-ce que vous entendez toujours l'écho, en tout cas, ceux qui sont dans Niptech?
Ah oui, si vous êtes dans les deux, ça va pas marcher, quoi. Ça, c'est sûr.
Si vous êtes dans les doses, c'est sûr que ça fait un écho. Alors, ce que je vous conseille, c'est de baisser le son d'une des channels et puis après d'y aller. Normalement, ça fonctionne.
Voilà, j'ai mis un petit yo. Bon, voilà, ça marche, Tilt.com. Et puis surtout, on cherchait une solution parce que Ustream a tendance à mettre de la pub dans le flux. Et ça casse la tête. Et il y a beaucoup de gens qui regardaient Niptech et qui en ont eu marre à cause de ces pubs. Donc là, peut-être qu'on aura enfin plus de pubs dans le flux. Ça serait vraiment bien. Je pense que Ustream risque d'être moins content hein, que quelqu'un leur pompe le flux et puis enlève la pub. Mais nous, en tout cas, on est très content et on aime beaucoup ça. Donc à voir. Et puis là, on voit déjà les avatars qui arrivent alors qu'ont bonne allure. Est-ce qu'on peut aussi bouger la tête comme ça? Je sais pas. Hein. Dans Turntable, on peut bouger la tête quand on est content, je crois. Bon, ben, sympa. Il faut voir si le chat est aussi bien ou pas. Voilà. Là, c'était vraiment. Je sais pas ce que ça donne pour les gens qui écoutent pas en direct. On s'excuse parce que c'est probablement pas la partie la plus passionnante de Niptech. Mais en même temps, c'est l'essai de chill.com en live. Voilà. On est dessus. C'est cool. Et comme tu l'as dit, chapeau à la réactivité du gars. Alors, s'il avait pas été aussi rapide et efficace, je pense qu'on l'aurait pas écouté. Mais là, il y a aucun doute que c'est vraiment vraiment bien comme ils l'ont fait, quoi. Donc,
Oui,
cool.
écoute, preuve que les news sont des old news, on saute de Steve Jobs à chill.com, c'est pas par manque de respect pour Steve Jobs, hein, tous les Apple fanboys qui nous écoutent, il restera tout le temps dans notre cœur et en tout cas pendant un moment sur le site d'Apple. Moi je dis quand même RIP Steve hein, et you'll be missed, ça c'est
Oui,
sûr.
exactement, exactement, ça c'est sûr. Et bah on fait quand même faire la transition en forme, on va la dire qu'elle est en forme d'hommage, sur l'iPhone 4S qui était donc l'annonce de la semaine passée. Tout le monde avait trouvé que la conférence était un petit peu en demi-teinte, que peut-être Tim Cook était pas à la hauteur, etc. À la lumière des événements, on comprend peut-être pourquoi le cœur, enfin on comprend même absolument pourquoi le cœur n'y était pas. Donc à voir pour les
Oui,
talents
tout
de
à fait.
Tim Cook. En tant qu'orateur, ce qu'il en sera la prochaine fois. Il n'y avait pas grand-chose, hein, au niveau de l'annonce de cette iPhone 4S. Même design, beaucoup plus rapide, dual core, enfin des améliorations techniques. Mais surtout, moi, ce qui m'a intéressé, ce qui a fait une bonne partie de la présentation, c'est Siri. Est-ce que toi, tu as écouté ce que c'était Siri, Mike?
Écoute, j'ai écouté, j'ai surtout regardé, j'ai pas regardé toutes les keynotes en live parce que déjà il n'y avait pas, mais j'écoutais sur Tweet.tv où ils faisaient des descriptions de ce que c'était Siri et puis aussi sur Engadget où je passais voir un peu ce qui s'y passait. Ce que j'ai pu voir et comprendre, mais pas encore tester malheureusement, parce que c'est la possibilité de manager son téléphone avec des commandes vocales. Donc,
Voilà.
je t'avoue une chose avant que tu commences, c'est que moi j'ai commencé à le faire dans la voiture que j'ai, qui est une jolie voiture, hein, j'ai une BMW, et à
Travis la
l'intérieur
pète.
de ce système de navigation, bon, c'est pas une énorme, mais il y a un système. Étant donné que je suis un geek, j'ai pris le plus petit moteur avec le plus d'options possibles, et une de ces options, c'est la possibilité de parler à mon navigateur ou parler à ma radio et ce genre de choses. Et je t'avoue que c'est quand même très sympathique, surtout quand on est en voiture, pour la navigation. Alors j'appuie sur un bouton, je fais navigation, automatiquement il va. Après je lui dis new destination, enfin je lis et après je dois épeler par exemple la rue ou épeler la ville. Je dirais par exemple Dublin, Dublin, et automatiquement il me la trouve et ça marche très très bien. Donc je suis plutôt convaincu de la manière de parler, en tout cas pour quelque chose qui marche bien, comme j'ai dans ma voiture. Donc, il semblerait que Siri soit dans ce côté-là, au mieux, bien sûr. Donc, vas-y, dis-nous ce que c'est.
Voilà. Alors pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité tech, et c'est-à-dire tout le monde qui nous écoute, Siri, c'est Nuance Rencontre Watson. Il faut que tu utilises un autre clavier, Mike.
Oui,
Nuance Rencontre Watson, c'est-à-dire que la reconnaissance vocale rencontre l'intelligence artificielle et la compréhension du texte. Alors c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et plus tout le monde le voit comme la reconnaissance vocale, mais ça c'est vrai que Google le faisait déjà ben, depuis un moment avec Android. Tandis que la compréhension de ce que tu dis est pas du tout évidente. Alors qu'est-ce que j'entends par là? c'est que, par exemple, tu peux demander à Siri, ça c'est un exemple qui a été pris assez souvent, est-ce qu'il y a des bons restaurants mexicains dans mon quartier? Alors Siri te dira non, je trouve rien, et tu diras et peut-être des Italiens, et là, il te dira oui. Exactement, il y a une pizzeria là et là. C'est-à-dire que cette capacité à comprendre le contexte, c'est le but ultime de Siri. Ce qui, comme on peut l'imaginer, requiert beaucoup plus que simplement comprendre les mots que tu dis. Il y a une compréhension du contexte, il y a une compréhension des intentions qui est importante. Et c'est ça qui est absolument génial. Et c'est un petit peu le pari qu'on fait aussi avec Vocalytics, de se dire, la voix va devenir l'interface de ton expérience mobile. Parce que taper sur un mobile, c'est hyper chiant. Taper sur un clavier, ça va plus vite que parler. Par contre, taper sur un mobile, c'est vraiment la mort. Donc, ça va devenir de façon assez naturelle le premier choix pour parler. Et si en plus, ça comprend ce que tu veux dire, alors là, ça va être vraiment la fête. Donc, si Siri tient ses promesses, c'est vrai que c'est un énorme changement dans le paradigme mobile.
Oui. Écoute, moi j'ai une question par rapport à ça, c'est que tu m'entends?
Oui, je t'entends bien, je t'entends bien.
Ah ok, pardon, j'ai cru que tu m'entendais plus. Moi ma question c'était de dire, j'ai entendu dire que Siri, en fait c'était un projet militaire que certaines personnes ont développé de manière plus développée. J'arrive plus à parler aujourd'hui, je suis un peu fatigué, désolé.
T'as pas de micro, tu arrives pas à parler, c'est la fin.
C'est lundi soir, c'est la fin. Et ce que j'ai entendu du dire vraiment, c'est que non seulement ils ont développé ça de manière plus prépondérante chez Apple, mais que moi, est-ce que
Voilà,
les utilisateurs en
qu'est-ce qui
auraient
se
vraiment
passe?
envie? Oh là là,
Qu'est-ce qui se passe?
je sais pas quoi
Attends,
faire, mais je vais m'effondrer.
moi je propose que tu respires un petit coup. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps
Ça fait longtemps. Merci de
que
me
t'avais
soutenir, Ben, dans ce long moment de silence.
pas.
C'est toujours
Écoute, j'ai du plaisir, mais là j'arrivais même avec toute ma bonne
bon.
volonté, j'arrivais plus à comprendre du tout. Donc oui, effectivement, c'est un projet militaire à la base, ce qui n'est pas extrêmement surprenant quand tu sais que, bah, évidemment, les militaires, on a parlé d'échelons, mais on a parlé aussi de beaucoup de d'autres projets, principalement autour de la reconnaissance vocale. Typiquement, je vais te donner un exemple. Il y a quelques années, quand j'étais encore à l'université, tout le monde qui voulait recevoir des fonds des universités américaines travaillait sur la reconnaissance vocale de l'arabe. Et il n'y a pas beaucoup, hein, à se creuser la tête pour savoir pourquoi est-ce qu'il y avait tellement d'argent dans la reconnaissance vocale de l'arabe. Évidemment, c'était pour pouvoir monitorer ce qui se passe dans cette région du monde. Et
Effectivement.
Siri, c'est exactement le même principe, quoi. C'est-à-dire de pouvoir comprendre un petit peu plus ce que les gens se disent. Et puis eux, ils voulaient pas rendre service, mais ils voulaient juste pouvoir mieux suivre tout à chacun, quoi. Donc effectivement, c'est toujours la même chose. Je suis toujours curieux de savoir combien d'années d'avance les militaires ont, mais probablement une poignée. Donc je serais pas surpris que si ça sort maintenant, ils sont déjà assez au point, quoi.
Et toi, comment est-ce que tu vois son utilisation? Moi, je me dis, quand on est chez soi ou dans sa voiture seule et puis qu'on fait navigation et ce genre de choses, je le comprends. Mais quand on est dans un bus ou dans un métro ou n'importe où en dehors et qu'on commence à parler à soi-même, on a déjà l'air d'un con. Premièrement, les gens le font peu. Moi, j'ai eu une oreillette Bluetooth pendant quelques années. Je t'avoue, c'est pas, je suis pas comme un New-Yorkais qui parle comme ça en criant dans la rue. Je le fais pas souvent et je vois peu de gens le faire. Donc, est-ce que tu crois que ça va être une utilisation qui va devenir mainstream, parce que moi, je vois pas beaucoup de gens hurler dans la rue avec une oreillette Bluetooth pour le moment.
Ouais, écoute, je crois que c'est la bonne question. Moi, je me suis quand même aussi posé la question un petit peu parce que c'est ce qu'on disait aussi. Alors ça, c'est beaucoup plus vieux, hein, ça date des années 70. Pour la reconnaissance vocale, on disait, oh, mais c'est fini, plus personne dans 5 ans, absolument plus personne tapera jamais un texte parce que avec les ordinateurs, même déjà qui étaient pourris à l'époque, mais quand ils faisaient de la recherche, hein, plutôt, avec les ordinateurs qui vont se développer, ben les gens auront plus besoin de taper. Résultat, 30 ans de recherche plus tard, je connais personne qui utilise la reconnaissance vocale, à part peut-être dans les cas des gens qui ont besoin parce qu'ils ont des problèmes aux mains ou parce que voilà, ils tapent.
Ou les avocats, certains avocats, j'ai entendu, utilisent ça. Mais c'est même pas de la reconnaissance vocale, ils parlent dans un petit micro et après ils donnent à leur assistante pour qu'elle retape.
Ouais, alors effectivement, c'est la
Très
reconnaissance
technologique.
vocale du riche, ça. Donc c'est vrai, moi je me pose aussi un peu la question, hein. Disons que je serais pas surpris parce que la différence du clavier tapé sur un Natel, ce qu'on appelle Natel en Suisse, c'est un téléphone mobile, c'est vraiment vraiment pénible. Donc si l'incentive il est assez grand, à mon avis ça fonctionnera. Donc je suis assez positif pour Siri. En tout cas, j'apprécie à sa juste valeur la technologie derrière, quoi.
Et comment est-ce que tu penses, déjà, est-ce que Siri va avoir une API ouverte pour les applications comme les tiennes pour pouvoir utiliser son API? Et comment est-ce que tu vois, dans ton côté développeur un peu, comment est-ce que tu vois des applications utiliser ce service?
Alors, on parle bien d'appel là, tous les deux.
Oui,
Donc,
oui.
je pense que ça répond à ta question. Il y a pas besoin de. Je pense qu'ils vont vouloir que tous les autres crèvent. Et si quelqu'un essaye de même s'approcher vaguement de ce que fait Siri, il va avoir une déluge de patentes qui leur tombera sur la tête. Donc, c'est à peu près mon espoir d'ouverture pour Siri. Ce qui n'est pas un problème, hein. C'est comme ça que se fait le business, mais je pense pas qu'il y aura, je le vois mal s'intégrer à beaucoup. Alors il y aura peut-être des possibilités qu'Apple va dire que tu puisses appeler ton programme depuis Siri, mais je les vois mal avoir une intégration très profonde où tu pourras appeler dans l'API. J'espère me tromper, hein, mais il me semble pas qu'il y a une grande histoire de la part d'Apple de faire ce genre d'intégration. C'est ce qui me semble. Donc, ouais, mais en tout cas, vraiment, vraiment intéressant, hein, Cyril.
Oui, mais ce que moi j'ai entendu, c'est qu'il sera que accessible sur le iPhone 4S et il sera pas accessible sur le 4. Donc voilà une petite fonction que Apple a mis en avant pour que les gens achètent un iPhone 4S. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau encore dans cet iPhone 4S? C'est la caméra, une sorte de processeur plus rapide, une caméra plus poussée. Alors moi j'ai un 4, franchement rien ne me pousse à acheter un 4S, donc voilà. Je vais rester à mon 4 et puis si ce n'est changer à un Android quand ils marcheront bien l'année prochaine.
Écoute, c'est pourtant le téléphone Apple qui semble être le plus précommandé. Déjà 1 million de précommandes, donc avant même qu'il soit disponible, ça fonctionne bien. Moi, je suis d'accord avec toi. Probablement que les technophiles vont pas s'enthousiasmer, mais semblerait que les gens qui sont plus démotivés d'Apple que de vraiment de la puissance ou de l'intérêt du téléphone soit bien chaud. Donc en tout cas, bravo à eux. Écoute, on va peut-être passer aux autres actualités de la semaine, parce qu'il y en a eu quand même pas mal, et je pense qu'on a un petit peu épuisé le sujet de l'appel 4GS. Alors, juste pour faire la transition, on a, je pense, les premiers résultats de notre test chill.com qui nous a mis dans tous nos états pour pas grand-chose. Voilà, en gros, on était une poignée dans la salle. Maintenant, il reste nous deux, plus quand même quelqu'un qui est encore assez bon pour rester là aussi. C'est vrai que le consensus un petit peu général, c'est à part te forcer à te loguer avec Facebook et ensuite te mettre une sorte d'écran devant la vidéo où il y a un petit gars qui bouge la tête à gauche puis qui bouge la tête à droite, qu'est-ce que ça amène vraiment de chill? Et je dois avouer que j'aurais un petit peu de peine à répondre de qu'est-ce que ça amène vraiment de chill. Pas grand-chose, c'est vrai, pas grand-chose. Donc,
Ouais,
Mike.
non, vraiment, même pas grand-chose, rien du tout, je dirais, parce que à part les petits bonhommes qui bougent, il n'y a rien qui pousse vraiment à l'utilisation. Soit on n'a pas compris, soit personne n'a compris. Mais en tout cas, je suis pas vraiment convaincu. Je pensais qu'il y aurait plus la possibilité d'interaction, c'est-à-dire si tu chattais, il y aurait les petits icônes qui viendraient sur ton personnage. Enfin, dans turntable.fm, je pense que ça fait sens aussi parce que c'est de la musique. Donc, qui dit musique dit partage, dit club, dit envie d'être debout tous ensemble pour crier. Mais peut-être il faut être plus nombreux. Enfin, moi, je vois pas ça comme une chose plus sympa qu'une news, que la channel ou le chat de Ustream. Donc, pas concluant, je pense qu'on continuera pas, Ben, si tu es d'accord avec moi.
Non, voilà, essayez, pas réussi, je suis d'accord avec toi. Turntable, ça fait du sens parce qu'il y a quatre DJ qui passent. Pour une émission
Oui.
comme la nôtre,
Et
bon,
les
voilà.
gens votent aussi pour les chansons. Donc, il y a un côté, je vote pour la chanson qui revient. Donc, il y a un côté, ça ajoute un supplément. Là, il n'y a rien qui est ajouté supplémentaire par rapport à une chatroom normale.
Et puis, je
Donc,
pense qu'on peut sans autre dire qu'on a testé ça avec la fine fleur de la tech francophone. Donc, y a aucune chance qu'on soit trompé. Si l'audience présente dans la chatroom chill ce soir n'a pas aimé et qu'en plus on est d'accord, autant j'aime beaucoup la rapidité de réaction de chill, autant je pense que c'est terminé. Écoute, voilà, Deadpool pour chill, bien joué à eux quand même. Bon, on parle de Deadpool ou Deathpool, ça nous ouvre la voie sur Quickster. Tu te souviens dont on s'était moqué un petit peu avec tout le monde, Quickster qui
oui.
était le nouveau service. Enfin, l'ancien service de Netflix DVD qui était renommé et séparé du business en général. Le CEO de Netflix s'était ensuite excusé de la façon dont ils avaient annoncé la nouvelle et il s'est encore excusé un petit peu. Puis finalement, ils ont annoncé aujourd'hui même qu'ils allaient réintégrer le service DVD dans Netflix et tout simplement mettre Quickster à la poubelle. Donc quelqu'un chez Netflix a été viré, ça c'est sûr. Et en plus, tout le monde a perdu un petit peu la face. Ils ont dit qu'ils avaient vastement sous-estimé la réaction du public et leur attachement au service DVD. Ça me surprend. Je trouvais que c'était une bonne idée, malgré le nom idiot. Je trouvais que c'était un extrêmement, c'était courageux et je trouve qu'ils n'auraient pas dû faire marche arrière, ceci dit.
Oui. Moi, une chose qui m'étonne, c'est que je me pose la question si c'est pas pour satisfaire les big majors. Je pense qu'ils doivent payer des droits d'utilisation, et ces droits d'utilisation, ils sont différents s'il y a des DVD ou s'il y a du streaming. Donc, je me demande si ils ont pas proposé ça et fait exprès que ça capote pour montrer aux majors qu'ils ne pouvaient pas le faire. Je me demande s'il n'y a pas une magouille comme ça derrière, parce que ça paraît tellement gros la manière dont ils l'ont mis en place, avec un nom horrible. Qui ne veut rien dire, avec un K, un S et un Q dedans, et un W encore. Donc, je me demande si c'était pas une obligation de la part des majors qui voulaient qu'ils différencient le streaming du DVD, et finalement ils ont montré que les gens le voulaient pas et que tout le monde allait perdre Netflix et les majors avec moins d'argent au final.
Ouais, donc il y a une différence de business model qui est assez capitale, hein. Je pense que, je sais pas si vous avez écouté This Week in Venture Capital où ils expliquaient la différence entre les deux modèles. C'est-à-dire qu'il y a une loi, en tout cas aux États-Unis, qui dit qu'une fois que tu as acheté un support tel que le DVD, tu en es propriétaire ainsi que son contenu, en tout cas dans la mesure de certaines limites, mais tu es tout à fait autorisé à le louer ou à le revendre, par exemple. Donc ça fait que tu achètes une fois le DVD et après tu peux le louer ou le revendre. Par contre, quand tu fais de la distribution online, tu payes à chaque fois. Tu peux pas dire je suis propriétaire du contenu à aucun moment ou du support. C'est pas parce que tu as acheté, downloadé une fois la copie que tu en es propriétaire. Et pour les majors, je pense que c'est plus intéressant ce modèle-là parce que tu payes à chaque fois, tu vois. Tandis qu'avec le DVD, ben voilà, quoi, eux ils touchent qu'une fois et c'est tout. Par contre, du côté de Netflix, il y a un autre problème qui se passe, c'est que le business du DVD, c'est quelque chose qui est là depuis un moment. Ils savent exactement combien d'argent ils se font sur un DVD. Ils savent exactement combien de temps un DVD fait pour revenir à la maison. Ils savent assez bien combien il y a de copies qui sont vendues. Donc tout ça, c'est quelque chose qui tourne bien. Alors que pour ce qui est des copies, des downloads, ils le savent pas encore parce que c'est un business qui est un petit peu jeune. Donc ils ont beaucoup plus de peine à faire des projections aussi à ce niveau-là. Et je pense que même pour des raisons comptables, ça leur facilitait la vie d'avoir vraiment deux entités séparées, une qui pouvait voir décliner tranquillement avec leurs projections et puis l'autre qui pouvait gérer un petit peu plus comme une start-up. Voilà, essayez pas plus de nouveau, hein, c'est un peu comme l'histoire de Chill, .com, à part que c'est à une échelle atomique et beaucoup plus grande que ça, mais voilà, ça valait la peine de dire un petit peu. Moi, je suis toujours assez partisan des gens qui essayent, même s'ils n'arrivent pas, donc voilà, bravo, bravo à eux. Et puisqu'on parle d'essayer, encore une transition toute faite, est-ce que tu as entendu parler de ce nouveau langage qui s'appelle Dart, Dart?
Non, alors je ne connais pas du tout. C'est un langage de programmation?
Oui, c'est un langage de programmation qui vient d'être annoncé par Google et dont le but, pas tellement avoué, mais qui pourrait, si ça marche, est de remplacer JavaScript. Donc, c'est un langage en fait qui vraiment a été lancé aujourd'hui. On mettra le lien dans sur niptech.com pour ceux qui sont des early adopters et qui permet de. C'est un peu du JavaScript, on est un peu plus clair, un peu plus joli. Beaucoup de gens reprochent un petit peu, et j'en fais partie, à JavaScript d'être pas un langage extrêmement sympathique à utiliser. Certains ont entendu parler d'un autre langage qui essaye de régler ça, qui est du pur JavaScript, qui s'appelle CoffeeScript. C'est-à-dire que c'est une façon plus jolie d'écrire du JavaScript qui ensuite est traduite en JavaScript lui-même. Dart fait pas ça, même si en fait il peut être traduit en JavaScript aussi. C'est-à-dire que il sera par exemple dans Chrome, tu pourras écrire des applications en Dart, mais si tu veux avoir qu'il marche sur par exemple Firefox, il y aura un petit compilateur, un petit traducteur qui le passera en JavaScript. Les premiers tests que Google a mis bien sûr, eux-mêmes en ligne montrent que ça peut être jusqu'à 10 fois plus rapide que JavaScript. Mais bon, ça c'est des tests de Google. Il faudra attendre peut-être un petit peu des, comment on dit, des benchmarks indépendants. Toujours est-il que c'est intéressant de voir qu'il y a ces changements dans les langages de programmation. Google a aussi lancé Go. C'est bien. Il faut que ça bouge même au niveau des programmes de, au niveau des langages de programmation. Donc voilà.
Moi
Quand
j'ai
tu
une
verras
question.
passer
Quand
Dart.
on crée un nouvel Quand on crée un nouveau langage de programmation comme Dart, est-ce que il faut après un plugin pour qu'il soit utilisable dans tous les browsers comme Internet Explorer ou Firefox? Bien sûr, dans Chrome, j'imagine qu'il le serait, pas d'office, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'un autre browser puisse reconnaître ce langage?
Écoute, il faut effectivement ben, soit un plugin, soit comme dans le cas de Chrome, qui soit intégré à la plateforme. Donc, il sera intégré dans Chrome. C'est pas encore le cas, hein, mais c'est un plan à moyen terme. Sinon, effectivement, tu dois avoir un interprétateur, je sais pas si tu mets un tas ou pas, mais tu dois avoir un interpréteur qui comprend au milieu le langage. Par exemple, le moteur V8 pour JavaScript. Donc, tu dois avoir quelque chose comme ça qui est intégré. Et c'est pas le cas évidemment pour Dart vu que ça vient d'être lancé. Et à voir. Si ça devient un standard, tout le monde l'aura et ça sera plus un problème. Sinon, il va avoir de la transition. Ça va prendre des années, hein, de toute manière, avant que ça change. Mais c'est intéressant de se tenir au courant de ces tendances et puis de bien se rendre compte que JavaScript, c'est pas la dernière étape et qu'il y aura des prochaines étapes. Et que c'est très bien comme ça. Moi, j'aime beaucoup les améliorations, même quand elles sont comme ça, un peu plus techniques, quoi. Mais c'est moi ta tasse de thé, Mike, hein.
Ouais, c'est moi ma tâche d'été. Il faut dire que j'ai été traumatisé en tapant du code quand j'étais à l'université où je m'étais quand même inscrit hein, au cours de Java 1 de l'EPFL que j'ai passé avec 8 de moyenne, ce qui n'était pas mal pour la première année.
8
Et
sur
j'ai été
10?
traumatisé. Oui, 8 sur 10. Donc c'était
Joli.
pas mal. Et surtout que c'était surtout dur pour quelqu'un qui faisait HEC comme moi, qui tapait pas du code. Et j'avoue avoir été traumatisé. Le code me poursuivait jusque tard dans la nuit. Il ne me permettait pas de dormir le week-end. Je faisais des boucles dans mon esprit. On continue. Il paraît que c'est normal pour tous ceux qui débutent de coder. Ils ont cette problématique. J'avais entendu dire. En tout cas, moi, je l'ai eu, mais je l'ai jamais surpassé. Et je me souviens avoir été traumatisé de devoir coder une application pour trouver les métros parisiens. Et heureusement que l'assistant m'avait aidé parce que sinon, on ne saurait pas été.
Écoute,
Donc, bon.
je dois dire que pour ta décharge, que tu as commencé avec Java et que Java était conçu justement à l'origine pour faire ce genre de cauchemar. Donc c'est prévu, hein. Si tu avais commencé avec Python ou quelque chose comme ça d'un peu plus sympathique, tu aurais probablement une autre appréciation du plaisir de coder. Mais c'est vrai que Java, c'est bien lourd, hein. C'est pas le plus joyeux à coder. Bon, alors on va revenir à des choses qui nous parlent le plus, en tout cas en termes de vu que tu as fait HEC, on va dire. Je sais pas si tu as vu la nouvelle par rapport au IPO, donc aux sorties en bourse des boîtes informatiques en 2011.
Non, j'ai pas vu. Vas-y.
Alors écoute, il y a eu un petit récapitulatif des différentes IPO qui ont lieu en 2011. Alors pour te dire, la plupart ont pas très bien réussi, c'est-à-dire qu'après quelques mois, Elles sont dans le rouge, de 10% à plus de 50%. Quelques-unes ont bien réussi quand même. Alors on va commencer à tout seigneur, tout honneur par ceux qui ont bien réussi. Et ceux qui ont le mieux réussi en 2011, jusqu'à maintenant, c'est LinkedIn qui a gagné plus de 50% par rapport à quand ils ont été mis en bourse. Donc joli. Ensuite Carbonite, cette solution de sauvegarde, hein, qui a aussi qui est moins de 50% mais qui est quand même plus de 30% de réussite. Après, il y en a une poignée que je connais pas, dans les, je dois dire là, Service Source International, HomeAway Inc. Je connais pas, encore deux ou trois comme ça que je connais pas, qui ont eu des résultats moyens. Ceux qui ont le moins bien réussi, ça s'appelle Friend Finder. Qu'est-ce que c'est? C'est du dating qui a
Le
perdu
Friend Finder,
pratiquement tout, quoi. Vraiment au fond du bac,
Friend
Friend Finder.
Finder, je connaissais, je crois que c'est plutôt du dating. C'est pas ce site canadien hyper mal fait qui fonctionnait. Attends, je vais juste sur le site pour
Ouais,
voir
les
si
réseaux
c'était
sociaux
celui-là.
ont pas très bien réussi, hein. Renren, le réseau
Non.
social chinois, a perdu plus de la moitié de sa valeur aussi. Et puis
Bon,
dans ceux qui
LinkedIn
ont...
est un réseau social, donc faut pas dire qu'ils n'ont pas réussi parce
Ouais, non,
que
ça, c'est qui c'est qui va sur LinkedIn? C'est pas un réseau social, c'est un CV, c'est ton CV en ligne, LinkedIn, quoi. C'est tout. Qui c'est qui va sur LinkedIn?
Non, mais j'ai entendu dire depuis qu'ils avaient changé la manière dont les gens pouvaient updater leur profil et updater leur statut, beaucoup plus de gens y allaient. Ça devenait comme un forum de discussion. Donc, moi, j'ai jamais croché. Hein, ceux qui updatent leur profil LinkedIn, souvent, c'est parce qu'ils changent de boulot. Donc, c'est pas vraiment idéal parce que dès qu'on commence à changer son profil LinkedIn et qu'on est connecté à tous ses collègues, on sait qu'on est en train de trouver en chercher du travail.
Tu sais ce que j'ai
Donc,
vu
c'est.
dernièrement sur LinkedIn, enfin dernièrement, c'est aujourd'hui, j'ai vu une pub personnalisée qui me disait Benoît, vous cherchez du travail, c'est en anglais, hein, mais je traduis, et c'était une pub pour un job chez Google. Je sais plus ce que c'était, une sorte de truc un peu moitié tech, moitié business, qui aurait pu me convenir assez bien hein, vu le profil que j'ai sur LinkedIn. Et ça t'envoyait directement à la page de recrutement de Google. Et je trouvais assez intéressant parce que enfin, c'est la première fois que je vois comme ça des offres d'emploi personnalisées sur LinkedIn. Et c'est vrai que c'est un assez bon. Je comprends l'intérêt pour les sociétés parce qu'évidemment, si tu veux passer de recruteur qui coûte très cher, comme chacun sait, c'est cool. Non, alors je suis d'accord. Je suis navré d'avoir dit que LinkedIn c'était que ton résumé, ton CV en ligne. C'est un peu plus que ça. Et bah la preuve, hein, c'est qu'ils se font de l'argent. Donc voilà.
Et tu parlais d'une chose intéressante, c'est un ad ciblé pour toi, c'est-à-dire une publicité qui est ciblée pour toi sur LinkedIn. Il y a quelque chose qui est arrivé à un ami à moi, je ne citerai pas le nom, mais il connaissait une personne qui était hors son cercle d'amis, qu'il a rencontré comme ça, et tout d'un coup, donc cette personne ne connaît ni ses amis, ni était amie avec lui sur Facebook, quoi que ce soit. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a vu apparaître? Il a vu apparaître cette personne sur Facebook et on lui proposait d'être l'ami de cette personne. Alors que j'ai discuté avec lui, ni il n'avait eu des connexions à travers ses amis qui la connaissaient, parce qu'il avait rencontré cette personne d'une autre manière, ni aucune autre personne qu'il connaissait était son ami. Alors je me suis posé la question et lui était hyper choqué de se dire, mais comment cette personne elle peut arriver dans mon feed
Il a un
et
téléphone
dans les...
portable.
Oui, il a un téléphone
Il a
portable.
pris le numéro de la
Et
personne. Il était
je
connecté sur
pense,
Facebook. Il a l'application Facebook.
oui, il doit avoir
Bingo.
l'application. Oh là là, c'est ça?
Écoute,
Waouh.
je pourrais pas jurer. Je suis à peu près certain que c'est ça, ouais.
Ah, alors ça, c'est assez hallucinant. Donc ça veut dire que ça a été cherché dans ses contacts pour trouver le nom de la
Ah, attends,
personne
attends.
et...
T'as bien lu dans les conditions générales d'utilisation de l'application Facebook que ça allait regarder tes numéros de téléphone. C'est un avis éclairé qu'il a donné là. Il était absolument conscient de ça, non?
Oui, bien sûr, parce qu'il avait lu les 50 pages du manuel, comme toi et moi d'ailleurs.
Ben,
Ah, ça, je savais
évidemment.
pas, tu vois. Parce que je me suis posé la question, je lui ai dit, mais c'est les amis des amis. J'ai commencé à faire une déduction, mais jamais j'avais pensé qu'il irait dans tes contacts chercher directement les noms de personnes et les updater et faire des propositions en direct. Donc, assez hallucinant finalement. J'espère qu'il garde pas en mémoire ces contacts-là, ni les numéros de téléphone.
Alors, écoute, je sais pas, je me suis endormi à la 200e page, donc c'est bien possible qu'il les garde. Mais je dis pas que c'est ça qui s'est passé, mais je serais vraiment pas surpris. C'est bien connu que Facebook cherche quand même à prendre possession des liens. Eux sont intéressés au carnet d'adresses du téléphone, hein, c'est clair et net. Donc ça me semble une bonne explication. À voir si quelqu'un peut-être dans la chatroom a une meilleure explication ou une autre explication. À voir. Et tu sais de quoi on n'a pas parlé, puis qu'on aurait dû parler plus tôt, tiens, parce que là on parle de choses qui font peur, mais il y a des choses qui font plaisir aussi. Et parmi les choses qui font plaisir, il y a eu le Startup Weekend de Lyon.
Oui,
T'as vu
tout à
ça?
fait.
Et j'ai vu que tu avais
Oui,
mis le nom du vainqueur. Et ça m'intéresse parce que j'ai pas eu le temps de regarder encore. C'était ce week-end, donc ça a fini hier
alors
soir.
c'était ce week-end. C'était ce week-end, je vais revenir à la personne pour lui donner le crédit qui lui est dû, qui nous en a parlé. Il s'appelle Shaolin avec EAN Games, qui nous a dit, ça s'appelait hashtag SW Lyon. Donc, Startup Weekend Lyon vous aurait plu. Et tout, il nous a un peu expliqué ce que lui il faisait, et je me suis dit, bon, ben, on va en parler sur Niptech parce que c'est très cool. Alors, en tapant sur le hashtag sur Twitter, je suis tombé sur un site sympa qui explique exactement quelles ont été les sociétés. Donc, c'est vendredi, c'était 38 pitchs et 14 projets sélectionnés, c'est ça qu'ils nous disent dans le blog, et il y a eu trois gagnants. Donc, premier gagnant, c'est quelque chose qui s'appelle Fan à lunettes. Système de troc ou de vente pour des lunettes d'occasion. OK. Tu m'entends, Ben?
Oui, je pense que c'est à peu près t'as eu l'étendue de mes réactions par rapport à cette excellente idée.
Écoute, alors là, on n'a pas de lien, malheureusement. Donc, ils ont dû pitcher, c'est eux qui ont gagné, mais ils ont dû pitcher quelque chose qui n'était sans lien. Et c'est vrai que j'avoue, dès que tu n'as pas un site web ou quelque chose derrière, c'est plus dur de se faire une idée. Bon, s'ils ont tous voté, c'est qu'il a dû pitcher cela de manière intéressante. Moi qui porte des lunettes, donc je porte des lunettes, pas tout le temps, mais j'en porte. Jamais je voudrais revendre mes anciennes lunettes, jamais je voudrais porter des anciennes lunettes. Pour quelle
Non.
raison? Déjà, un, parce que j'utilise mes lunettes jusqu'à destruction, si on veut bien. Donc après, je m'en rachète. Et j'aimerais pas porter des vieilles lunettes d'une personne. Je trouverais pas ça un peu, voilà, bizarre.
Écoute, moi, je pense qu'il y
Maintenant,
a une des raisons, c'est aussi qu'il y a eu deux, trois succès dans la scène tech française à propos de gens qui faisaient des lentilles et puis des montures et puis qui a une sorte de d'intérêt, je vais appeler régional, mais peut-être plus que ça pour ce segment de marché. À voir. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas
oui,
compris. Peut-être que
peut-être
ça
qu'il y a
va
quelque
bien
chose.
aussi avec la crise et le fait qu'on a
Oui,
tous
tout
besoin
à fait.
d'économiser. Il y a peut-être quelque
Bon,
chose. Ouais.
une chose que je vois qui est difficile par rapport aux lunettes, c'est que souvent on n'a pas les mêmes verres. Donc, un système de troc de lunettes de soleil, peut-être pourquoi pas. Ça encore, je voudrais bien.
Bon, tu fais
Mais
juste monter les verres, quoi. Mais c'est vrai qu'après, tu dois
oui,
les
c'est
tailler
ça.
et
Mais
tout.
c'est déjà un travail ou déjà quelque chose qu'il faut faire en supplément. Donc, écoute. Le pitch devait être bien s'ils ont gagné. Peut-être nous, on ne comprenait pas le business model. Si la personne de Fan à lunettes nous entend, ce n'est pas qu'on veut être absolument critique par rapport à son pitch, hein, pour la phrase que j'ai lue. Donc, et il peut nous envoyer un tweet, et puis c'est avec plaisir qu'on regarde et puis qu'on check. Deuxième, c'était dessine-moi un bouton. Alors ça, c'était pas mal. Alors quand tu cliques sur le site web, c'est quoi? C'est une manière de t'aider à générer des vidéos, create amazing video. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'avec leur concept, ils ont créé une vidéo de Startup Weekend, une explication de Startup Weekend. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est how to, c'est-à-dire c'est une facilité pour créer de la vidéo online facilement. Et c'est un site web qui semble t'aider à le faire. Je suis pas allé dans les détails, j'ai pas essayé de créer moi-même une vidéo, mais en tout cas la manière dont c'était présenté, c'était très cool, avec une explication de Startup Weekend. De manière très TED-like. Donc, pas mal, en tout cas, au niveau design et la manière de pitcher le site. Et le
Écoute, ouais,
troisième.
je veux dire, le création de contenu, vent en poupe, bon marché, si c'est simple et efficace, vraiment, je pense, une bonne idée. Pour l'instant, mon préféré, d'entre les deux. Bon, c'est pas qu'il y en a beaucoup, hein, mais. Ok, et
Et
le troisième, alors?
Dressing Avenue, alors attends, Dressing Avenue, plateforme de vide dressing personnalisée avec recherche en fonction du style et du profil. Donc voilà, pour pouvoir vendre ces outils, ces habits ou d'autres choses. J'ai essayé d'aller sur le site, c'est marqué Soon. J'aime bien le nom, Dressing Avenue, j'avoue. Je trouve ça assez cool. Ça paraît trendy, facile à prononcer, en tout cas pour un anglophone. Même pour un francophone, finalement, Dressing, ça s'utilise, Dressing Avenue. Donc beau, beau nom. Maintenant, l'idée, pourquoi pas, toujours la difficulté avec ça, c'est toujours que ça va. Les tailles sont différentes, les tailles de chaussures, les tailles d'habits et tout sont différentes. Donc ça demande toujours de pouvoir retourner la marchandise. Zappos en sait quelque chose, d'où
Ah oui.
l'importance du service après-vente en ligne avec Zappos et d'autres. Donc les idées pas mal, en tout cas j'ai vu pas mal de sociétés assez cool. Une qui m'a plu, je trouvais des tendances, il y avait Skoopy, Skup. PEE.com, qui est une plateforme communautaire pour bénéficier de tarifs de groupe. Donc, on voit que ça, c'est toujours un
Ah, il y
trend.
a aucun doute là, ouais.
Où il y avait Findiz, Findiz, site de chasse au trésor pour gagner des goodies en allant sur des sites partenaires. Donc, ça aussi, ça paraît assez cool. En tout cas, bravo à eux. Moi, je dis la prochaine fois, une chose qu'ils pourraient faire sur Startup Weekend, c'est mettre online les PowerPoint, les présentations des gars, comme ça on peut cliquer dessus et mieux comprendre ce qu'ils ont présenté
Ah
pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est, parce que s'il y a juste un lien au site web, c'est difficile à comprendre, surtout si le site web n'est pas créé.
pour ceux qui organisent, devraient avoir à l'esprit de prendre une bonne vidéo, en tout cas une vidéo de qualité moyenne. Comme ça, on peut juste avoir regardé les pitchs, tu sais, puis les couper, puis mettre les pitchs 1 minute. Comme ça, on peut aller à côté de chaque gagnant. Je trouverais que ça serait cool. Ça prend un peu de travail, c'est vrai. Il y a déjà peut-être assez de choses à faire. Moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup voir ça parce que c'est vrai que ça te permettrait de mieux comprendre. Il y a quelqu'un qui nous avait
Oui.
parlé, hein, qui m'avait pingé à propos de Startup Weekend. C'est Gaëtan Compagnie. Puis je te demande déjà maintenant. Ils nous ont demandé si on aurait plaisir à venir à leur propre podcast, ce Living Radio. Qui se passe le jeudi soir où ils discutent tech pendant un moment. Moi j'ai dit que je passerai volontiers à l'occasion, Mike, je te passerai le message aussi. Pour ceux qui veulent connaître et voir le lien, vous trouvez Gaëtan Compagnie à techmefr, Techmefr en un mot sur Twitter. Voilà, comme ça c'est un autre podcast tech encore le jeudi pour tous ceux qui veulent pas avoir des vieilles news du lundi. Il y a moyen encore de trouver des informations le jeudi entre deux quoi. Hein, tu donneras la réponse quand tu regarderas ton agenda.
Oui, non, moi je suis toujours assez chaud. Maintenant, j'ai jamais. Oups, j'ai perdu presque mon oreillette, attention. Donc, j'ai jamais participé au podcast d'une autre personne jusqu'à maintenant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça m'intéresse. En tout cas, c'est un honneur qu'ils nous invitent. Hein, merci beaucoup à eux. Et
Ouais.
puis, s'ils me retweetent une fois un jeudi où je suis à la maison, ben, c'est avec plaisir que je participe.
Ok, bah c'est magnifique. Écoute, qu'est-ce qu'on fait? On va passer à la séance de clôture de l'émission. Tu nous régales de semaine en semaine avec parfois une quote, non, souvent, très souvent une quote, mais parfois aussi un site, une vidéo, un coup de
Oui.
cœur, un rayon de soleil, un regard, quelque chose.
Alors là, aujourd'hui, trois choses assez
Ouh,
simples. On va aller
gosh.
vite.
Ouais, je vais.
Déjà, c'est une tablette pas chère dont je voulais parler, que je trouvais assez intéressante. Donc, l'objet de la semaine, la vidéo de la semaine et bien sûr la quote de la semaine pour finir. Ça te va bien?
Oui, alors c'est absolument génial.
Alors, l'objet de la semaine, c'est The World Cheapest Computer, qui est une sorte de tablette qui a été créée par des Indiens, financée par le gouvernement indien, qui coûte, devine combien?
Oui, j'ai vu, $35.
Ah, exactement, 35 dollars, dont 22 pounds. Et ils viennent d'enlever la news sur telegraph.co.uk. J'hallucine parce que je viens de la lire il y a 10 minutes, enfin il y a 1 heure. Bon, tant pis. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un tablette qui coûte seulement 35 dollars. Pour quelle raison ils l'ont créé? Aussi pour toutes les paysans ou tous les gens un peu on va dire tout simplement les pauvres d'Inde, qui puissent l'utiliser pour soit se connecter à Internet, soit pouvoir regarder les news ou regarder en tout cas quelque chose de technologique. Je trouve que 35 dollars pour un tablette, c'est incroyablement pas cher. Je ne sais pas en quoi il est fait, je ne sais pas si c'est sous Android ou sous quoi que ce soit, mais je dois dire bravo. Parce que
Écoute,
réussir à faire ça.
je pense, tu oublies le 3G, bon, de toute manière, tu oublies même peut-être le Wi-Fi. Je sais pas comment il tourne. Effectivement, tu dois avoir 20 mégas ou 256 mégas de mémoire. Écoute, mieux que rien, hein, on va dire.
Oui. Bon, voilà. Mais je voulais le noter parce que je trouvais que c'était assez intéressant de voir que bah, le gouvernement indien il travaille et puis essaye de fournir des solutions pas chères. Et je trouve que c'est comme ça
À ce prix-là, peut-être, Mike, tu peux faire, tu te mets à 3, puis tu t'achètes un touchpad.
Ouais. Moi, ce que je pense, oui, c'est clair. Tu t'achètes un
T'en
touchpad
touches
pour
pas
100
le côté
dollars.
du micro, là.
Ouais. Oh là là, tu es pas gentil aujourd'hui, Ben. Bon, allez, je passe à la vidéo puisque ça t'a pas convenu. Alors, vous savez, j'en ai parlé la semaine dernière. Je regarde assez ce qui se passe sur Occupy Wall Street. Ça m'intéresse la façon dont ils ont de pouvoir tweeter, de pouvoir s'exprimer technologiquement et aussi, pourquoi pas leur fondement, que je trouve intéressant à écouter en tout cas. J'ai trouvé une vidéo assez incroyable. C'est un de ces présentateurs de Fox News qui va interviewer quelqu'un dans la rue. Alors le gars, il a rien l'air de rien, hein. Il est un peu gros avec une casquette de sudiste américain. Tu te dis, ah, quel bofio, je vais lui faire dire n'importe quoi. Mais le problème, c'est que cette personne est extrêmement intelligente et trash la personne de Fox News de manière extrêmement intelligente, pas du tout sarcastique, mais avec des faits qui sont vraiment à couper le souffle. Et tellement que la personne de Fox News, bien sûr, n'a pas diffusé l'interview, mais toute la Twittosphère a pu se moquer d'eux, encore une fois de plus, même si on rappelle que c'est la Channel des News la plus regardée aux États-Unis. Voilà,
Écoute,
ça c'est pour la petite vidéo de la semaine.
je me réjouis de regarder cette vidéo. Je vais la regarder dès qu'on aura éteint l'émission et qu'elle sera en ligne.
Très bien, elle sera toujours en ligne sur niptech.com, je dois dire. Et la quote de
Joli.
la semaine,
Oui.
c'est une quote de Steve Jobs,
Oui.
hein, que j'ai
Et...
trouvée, et franchement, je l'ai trouvée belle. Et donc, je l'ai tweeté pendant la semaine et elle va comme ça. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
Voilà, donc votre temps est limité. Ne perdez pas votre vie à vivre celle d'une autre. Enfin, c'est difficile à
Oui,
traduire. Celle d'un autre, donc il faut vivre sa propre vie, quoi.
exact, et faire ce qu'on aime surtout. Donc je trouvais que c'était assez intéressant. Je ne sais pas à quelle partie de sa vie il l'a dit. Est-ce que c'était plutôt quand il savait qu'il était malade ou pas? J'avais aucune idée. Mais ce que je trouvais, c'est que c'est vrai. Hein, ça va pour toi, hein, qui est un entrepreneur, Ben. C'est que il faut faire ce qu'on aime. Et quand on se réveille et puis tous les matins en se disant ah merde, je vais au boulot. Franchement, ça motive pas à continuer à faire son mieux. Au mieux se dire ah c'est cool, même si c'est dur. Hein, c'est pas facile tous les jours de se dire ah cool, on va développer un truc, on va créer un truc. Même si c'est une passion, hein. Donc je trouvais que c'était une très belle quote de Steve Jobs
Oui,
et
je me
c'était une
demande si c'est
petite
pas
anecdote.
pendant son discours en 2005 à Stanford qui était beaucoup repris, où il savait déjà qu'il avait, ben évidemment, il avait été déjà malade, hein, et il avait dit que déjà il était connu pour pas avoir beaucoup d'état d'âme avant, mais que ça l'avait encore. Quand il dit quand t'as fait face à la mort, en tout cas vraiment à une grande probabilité de mourir, tous les détails comme ça où tu te dis ah non mais je vais pas faire, ou j'ai pas, ou j'ai peur, ou j'ai pas envie, ça devient encore plus irrelevant, irrelevant. Je sais même pas si c'est anglais ou français ça. Irrelevant? On peut traduire, voilà.
Irrelevant, c'est anglais.
D'accord. C'est quelque chose, effectivement, qu'il faut garder en tête. C'est tout simple, hein. C'est touchant de simplicité en ce moment. Et puis, je trouve que c'est une très, très belle quote que tu as choisie pour terminer ce podcast en hommage aussi à ce grand bonhomme que j'ai parfois aimé, détester, mais à qui je connais plein de mérites, et je préférerais qu'il soit encore là et pouvoir continuer à aimer le détester. C'est une très belle façon de conclure.
Merci, Ben.
Voilà. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, profitez bien. On se retrouvera pas sur Chill, mais sur niptech.com avec Mathieu qui sera là, notre ami québécois, prof du web. Donc on se réjouit beaucoup déjà de l'avoir avec nous. Et voilà, profitez bien. Ciao, ciao.
Ciao.